vision du monde. Geneviève Delerue, Corinne Mongeau.
Bonjour à tous. Place à l'actualité dans cette première partie de Religion du Monde. Nous commencerons avec l'attitude de l'Église du Honduras dans la grave crise institutionnelle que traverse ce pays d'Amérique centrale. Nous évoquerons la rencontre à Paris des présidents des conférences épiscopales réunis en assemblée plénière. Ce week-end, elles font le point sur leur situation 20 ans après la chute du mur de Berlin. Avec la revue jésuite Études, nous parlerons d'humanisme et d'humanisme chrétien dont il a été question lors du récent voyage du pape Benoît XVI en République tchèque. Le dossier de Religion du Monde, après le flash, sera consacré au second synode des évêques pour l'Afrique qui s'ouvre en ce moment même à Rome. Alors Geneviève, situation très tendue et confuse au Honduras, à l'heure où nous enregistrons, le président Manuel Zelaya, déchu en juin dernier par un coup d'État, revenu dans son pays le 21 septembre, se trouve dans l'ambassade du Brésil à Tegucigalpa. La capitale est en quasi-état de siège. Le gouvernement putschiste de Roberto Michelletti muselle les médias, empêche les manifestations de soutien au président déchu. Fait nouveau, l'Église, qui observait un silence depuis des semaines, est sortie de sa réserve par la voix de l'évêque auxiliaire de Tegucigalpa, Monseigneur Juan José Pineda, qui a évoqué des approches de dialogue entre les deux parties. Alors Geneviève, on n'entendait plus parler de l'Église depuis des semaines.
Oui Corinne, mais ce qu'il faut voir quand on parle de l'Église, nous médias, on entend la hiérarchie, ce qui n'est pas forcément représentatif de l'opinion générale des fidèles. Cette hiérarchie où Honduras est incarnée par l'archevêque de Tegucigalpa, le cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, président de la conférence épiscopale, un homme brillant qui a été papabilé lors de la dernière élection et qui se prononce en faveur de l'option sociale de l'Église. Cependant, en demandant aux officiellement, en juillet dernier, au président Zelaya, expulsé alors au Costa Rica, de ne pas rentrer au pays pour éviter un bain de sang, il est passé auprès d'une partie du peuple pour pro-putschiste, même si dans le même temps, il a condamné l'expulsion du président. D'où probablement son silence jusqu'à aujourd'hui. On écoute le père Jean-Louis Genoux, qui vit depuis 40 ans en Amérique latine. Il revient sur la réaction, l'incompréhension de Fidel.
Oui, ben, par exemple... Sur la cathédrale de Tegucigalpa, la capitale, ça a été rempli de graffitis, le cardinal putschiste, et de fait, ça a été un scandale pour les gens, pour les plus pauvres, de voir que l'autorité du pays, comme cardinal, se mettait de ce côté-là. Alors, quand on dit l'Église, je crois qu'il faut bien distinguer. Pour nous, l'Église, ben, dans la ligne de Vatican II, c'est le peuple de Dieu. Et quand on regarde à la base, l'Église est organisée avec des communautés ecclésiales de base qui sont des pauvres parmi les pauvres et qui n'ont pas du tout une option putschiste. Et c'est là qu'ils se sentent un peu lâchés par la hiérarchie. Bon, je dis la hiérarchie, c'est-à-dire surtout le cardinal.
Le cardinal, donc Maradiaga, qui a été papabilé lors de la dernière élection.
Oui.
Comment vous expliquez l'attitude du cardinal? Est-ce que c'est une attitude profondément politique d'abord? Ou bien c'est le souci qu'il n'y ait pas de débordement de violence?
Bon, c'est le motif qu'il a donné.
Oui.
Et il a dit même à Zelaya qu'il ne revienne pas parce que ça pourrait causer davantage de violence.
C'est ça.
Au moins c'est ce qu'il a dit. Mais il a aussi donné aux putschistes des bonnes raisons d'exister, alors qu'eux-mêmes n'avaient pas pensé à cette raison-là.
Vous pensez à quoi, mon père, là?
Par exemple, il a dit que quand Zelaya a été arrêté, quand il a été kidnappé dans son lit à 5 heures du matin et emmené en pyjama au Costa Rica, il a dit qu'à ce moment-là, Zelaya n'était déjà plus président de la République parce qu'il avait commis une entorse à la Constitution.
Oui, donc pour vous, c'est une façon d'avaliser effectivement...
Évidemment.
Bien sûr, ce coup d'État.
Oui.
Donc,
oui.
Pour vous, donc, le souci de maintenir enfin l'ordre, qu'il n'y ait pas de débordement, c'est effectivement un souci réel de la part de l'archevêque, du cardinal Maradiaga, mais
oui,
il n'y a pas que ça pour vous.
Mais alors, dans les faits, on se rend compte aujourd'hui que si, même s'il avait été sincère à ce moment-là, c'était une erreur.
C'est ça, donc d'où son silence aujourd'hui.
Parce qu'avec des gens qui commettent un coup d'État, on ne peut pas raisonner de cette façon-là. Alors, la hiérarchie, il faut dire quand même, il y a eu un soi-disant communiqué de la conférence épiscopale. Je dis soi-disant parce qu'on n'a jamais vu les signatures de ce communiqué. Mais par contre, on a vu à la télévision, on a entendu à la radio toutes les deux heures, puisque toutes les radios devaient émettre ce que disait la radio nationale. Toutes les deux heures apparaissait le cardinal pour répéter toujours la même chose. C'est-à-dire que même s'il ne voulait pas s'impliquer avec eux, il a été bien récupéré.
Il a été utilisé, on a passé en boucle ce qu'il a dit, on l'a passé en boucle.
Exactement, oui.
Alors, est-ce que l'on peut dire que l'Église, effectivement, n'est pas du tout sur cette question, elle est divisée, hein, qu'il y a dans
elle
les communautés.
Elle est divisée, et d'ailleurs, dès le surlendemain, un autre évêque a parlé, sans parler contre le cardinal, bien sûr, mais en prenant les choses d'une toute autre façon, en disant que le coup d'État avait été et allait être encore la cause de beaucoup plus de souffrances pour justement les plus pauvres.
Est-ce que vous pensez que le cardinal, bon, est aussi effectivement bon, un homme qui a des visées, je dirais, un peu plus lointaines, et que, bon, a été papabilé quand même en son temps, et
oui,
qu'il se considère
oui.
toujours comme papabilé? Est-ce que vous croyez que ça peut être une explication aussi?
Je ne sais pas, parce que je ne sais pas si après ce qu'il a fait, il sera aussi bien vu.
Alors, mon père, comment vous voyez cette sortie de crise? Comment vous expliquez d'ailleurs que cette crise soit arrivée au Honduras? Est-ce que c'est toujours la même chose,
oui.
la pauvreté?
Ça s'explique un peu. D'une part, il faut dire que le président Zelaya a commis un certain nombre d'erreurs. Il faut dire aussi que le président Zelaya a commencé à gouverner avec les puissants. Il est du Parti libéral. Il est un gros propriétaire terrien. Et donc, Zelaya a commencé, a été élu par les gros propriétaires et par un peu l'aristocratie du Honduras. Il a commencé à gouverner avec eux. Et puis, il y a eu un moment où il y a eu un certain revirement. Et alors, il y a eu l'idée de s'affilier à un groupe de pays qu'on appelle ALBA. Et le CIS est un sigle qui signifie l'alternative bolivarienne pour les Amériques. Avec une autre vision de l'économie, un regard tourné vers le sud et non vers le nord. Et à ce moment-là, ça a commencé à poser des problèmes aux puissants du Honduras. Micheletti, par exemple, le dictateur actuel, est d'une famille d'une entreprise de laboratoire pharmaceutique. Or, avec l'adhésion à l'ALBA, les médicaments au Honduras ont cessé d'être achetés aux multinationales et on a commencé à acheter les médicaments génériques à Cuba, au Venezuela, en Équateur.
Donc, en fait, ce que vous êtes en train d'expliquer, mon père, c'est que c'est une histoire d'intérêt, là.
Ah, bien sûr.
Avant une question d'idéologie politique ou de ligne politique.
Oui, totalement.
C'était le père Jean-Louis Genoux.
Religion du monde, Geneviève Delerue, Corinne Manjou.
Les présidents des conférences épiscopales d'Europe sont réunis depuis jeudi à Paris en assemblée plénière. Au menu, les rapports Église-État au niveau juridique, les migrations, l'environnement, la catéchèse. Au total, plus de 33 conférences épiscopales, Geneviève.
Oui, Corinne, c'est une rencontre de responsables religieux européens sur fond d'anniversaire, les 20 ans de la chute du mur de Berlin, évoquée le week-end dernier par le pape Benoît XVI à l'occasion de sa visite en République tchèque, d'où est partie, on s'en souvient, la révolution de velours qui devait balayer balayer à Prague de manière non violente le pouvoir communiste. On écoute Monseigneur Bernard Potvin, porte-parole de la Conférence des évêques de France.
C'est un moment très important. En effet, quand j'étais enfant, je me souviens très bien, il y a 40 ans, d'images extrêmement impressionnantes, bouleversantes, des soviétiques dans Prague. C'est seulement il y a 40 ans. Et donc, comme vous venez de le dire, il y a 20 ans seulement, la chute d'un mur dont on pensait que jamais il ne tomberait, jamais le système, l'empire soviétique ne tomberait, et tout ça en quelques décennies. Alors on peut comprendre que le pape rende grâce, il rend grâce pour une liberté qui est retrouvée, et Benoît XVI dit la liberté, et en même temps vous aurez remarqué qu'il dit toujours la liberté dans la vérité. On est comme à un carrefour, à la fois rendre grâce d'une liberté qui est retrouvée, mais maintenant les défis sont devant nous, la civilisation occidentale est devant des défis considérables, l'Europe doit réfléchir profondément à son avenir, c'est le sens d'ailleurs de la conférence qui se tient à Paris, et Benoît XVI dit « pas de liberté sans la vérité ».
C'est ça, et réfléchissons sur le sens de la liberté, quelle liberté ?
Exactement, cette liberté qui a été tout de même acquise d'une façon sanglante, d'une façon qui n'a pas été si facile. Les dictatures, les idéologies du XXe siècle ont fait grand mal, les peuples ont souffert cruellement, et la liberté dont vraiment on peut dire qu'elle est vraiment un bien fondamental, le pape dit, attention, si elle est conjointe à un relativisme, si elle est conjointe à aucun projet sur l'homme, aucun dessein sur l'homme, eh bien, elle risque de tourner court.
Au menu de cette assemblée plénière des présidents des conférences épiscopales d'Europe, il y a pas mal de thèmes. L'immigration, l'évocation, c'est les thèmes qui concernent directement les églises aujourd'hui, européennes.
Comment les présidents des églises européennes ne pourraient-ils pas regarder ces thèmes alors que nos sociétés sont complètement devant ces défis ? L'immigration, on en parle tous les jours. Qu'allons-nous faire, Europe, devant les phénomènes migratoires, le défi des sans-papiers, toutes ces graves questions sociales, le chômage, la crise économique ? Vous venez d'évoquer les vocations. L'Europe est frappée par la grave question des vocations. Il faut absolument travailler cette question des vocations sacerdotales. Nous sommes dans l'année sacerdotale, désirée par Benoît XVI. Il y a également au menu Église et médias. Il y a des questions sur la catéchèse aussi que vont se partager ces présidents. C'est à la fois une réunion de fraternité, des églises qui disent la fraternité au cœur d'une Europe qui évolue d'une façon vertigineuse. C'est un moment où va monter aussi sans doute la possibilité d'une expression. Je pense que l'Europe doit aussi avancer sans complexe. Elle doit regarder la foi dans laquelle elle est enracinée, et regarder aussi les défis majeurs qui sont devant elle. On sent bien que la Commission européenne est tous les jours confrontée à de graves questions, et donc il est vital que les églises catholiques se rencontrent.
Et est-ce que d'humanisme chrétien il sera question ? Benoît XVI l'a évoqué lors de son récent voyage à Prague.
Benoît XVI parle de l'humanisme chrétien dans son encyclique. Il en parle à Prague comme d'un thème fondamental à ses yeux. Il est bien sûr conscient que l'humanisme a une très grande valeur, mais il dit que pour le chrétien, il y a une ouverture à la transcendance. L'humanisme que défend Benoît XVI, c'est un humanisme qui tient compte de la personne, qui tient compte de la communauté, c'est le deuxième point, et le troisième point, c'est l'ouverture à Dieu. Alors, de parler de cet humanisme, c'est vraiment fondamental au nom de l'Évangile. C'est la mission de l'Église. Parmi les humanismes, et ils sont nombreux, ils sont infiniment respectables, et ils ont beaucoup de valeur en termes de solidarité, il y a l'humanisme chrétien qui a exprimé son originalité à travers le monde. Et cette contribution est fondamentale.
L'humanisme dont il a été question dans les interventions de Benoît XVI en République tchèque est précisément le thème de l'éditorial de la revue Études du mois d'octobre. Éditorial signé Nathalie Sartou-Lajus. La rédactrice en chef adjointe de cette revue jésuite de culture contemporaine rappelle que l'humanisme est aujourd'hui en danger.
Oui, le fait que Benoît XVI défende cet humanisme à Prague n'est pas un hasard, je pense. Enfin, même si la Tchéquie est une terre aujourd'hui athée, néanmoins, c'est aussi un terroir de l'humanisme. Et je pense, avec la présence de Václav Havel, de cet humanisme issu de la résistance, de la dissidence et de la résistance au communisme. Donc je crois qu'un dialogue peut se renouer aujourd'hui des chrétiens avec les autres religions et aussi avec les non-croyants à partir de l'humanisme.
C'est-à-dire que vous estimez que l'humanisme aujourd'hui, qui est en danger, hein, vous nous le direz, vous l'écrivez dans votre article, dans votre éditorial, que l'humanisme peut être un dénominateur commun.
Oui, tout à fait. Je crois que par-delà les controverses religieuses, aujourd'hui, on peut se retrouver, par-delà les controverses théologiques qui existent, qui sont réelles, les différences entre le christianisme et l'islam, entre le christianisme et le judaïsme, il y a des querelles théologiques. Et il ne s'agit pas de passer outre. Néanmoins, je pense qu'on peut se retrouver aujourd'hui sur la question de la défense de l'humanisme, sur la cause humanisme, autour de la cause humaniste. Pourquoi ? Parce que je crois que les sagesses aussi, je pense au bouddhisme, mais les sagesses et les religions sont des viviers dans lesquels nous pouvons puiser pour retrouver aujourd'hui la grandeur et la spécificité de l'humain qui sont en danger.
Alors, pourquoi en danger ? Vous parlez aujourd'hui d'un post-humanisme qui finalement, qui veut s'affranchir en quelque sorte des limites de la condition humaine.
Oui, parce que en fait, le post-humanisme, c'est tout un courant américain essentiellement qui se développe aux États-Unis, mais qui gagne aussi en Europe, essentiellement de scientifiques américains. Et il y a cette tentation-là, on sent, notamment avec les technosciences, désir de d'affranchir l'homme des limites de la condition humaine. C'est le vieux rêve, au fond, de l'homme tout-puissant qui refuse la fragilité, qui refuse la vulnérabilité. Or, ce que nous disent les sagesses et les différentes religions, c'est que la dignité humaine, elle est aussi dans elle est dans cette vulnérabilité, elle est dans cette fragilité, dans l'acceptation de cette fragilité. Regardez le respect qu'accordent les différentes religions à la veuve, à l'orphelin, aux plus pauvres, aux plus démunis. C'est cette conscience qu'il y a une grandeur de l'homme aussi dans cette vulnérabilité.
Aujourd'hui, à Rome, s'ouvre le second synode pour l'Afrique. Le premier s'était tenu il y a 15 ans, à Rome également. Ce second synode porte sur la paix, la justice et la réconciliation à Geneviève.
Oui, ce synode des évêques pour l'Afrique va durer 3 semaines. Le document de travail sur lequel vont plancher plus de 200 évêques a été présenté, on s'en souvient, par le pape Benoît XVI lors de son voyage au Cameroun au printemps dernier. L'Église de France sera représentée à ce synode par le cardinal André 23, archevêque de Paris et président de la conférence des évêques de France. Alors je lui ai demandé comment il voyait sa présence à Rome.
Pour moi, comme une très grande chance de pouvoir rencontrer un certain nombre d'évêques africains et de mieux connaître la situation de l'Église en Afrique et les défis auxquels elle est confrontée. Et puis je pense aussi que pour un certain nombre d'évêques africains, la présence du président de la Conférence épiscopale de France a une certaine importance aussi.
Comment vous voyez les enjeux de ce synode qui porte essentiellement sur la réconciliation et la paix et la justice ?
Eh bien, je pense que dans beaucoup de pays d'Afrique, l'Église catholique est une institution qui a la capacité de peser, non seulement en encourageant les chrétiens dans leur manière de vivre l'Évangile, mais aussi en constituant des interlocuteurs pour des responsables politiques qui ont quelquefois besoin d'être rappelés aux grandes vérités du bien commun. C'est aussi, on l'a vu dans les années passées, la possibilité dans un certain nombre de pays de faire appel aux évêques pour jouer un rôle dans le rétablissement d'une certaine paix sociale et d'une réconciliation entre les ethnies.
Le fait que ce synode se déroule à Rome, est-ce que vous pensez que ça donnera davantage de liberté aux évêques pour s'exprimer ? Là, ils ne peuvent pas toujours véritablement s'exprimer.
Je pense que c'est en partie une des raisons pour lesquelles le synode se déroule à Rome. Je pense aussi que c'est pour des raisons pratiques, parce que Rome a un équipement conçu pour tenir des synodes et que ce n'est pas le cas de beaucoup de pays d'Afrique. Et donc, plutôt que de choisir d'aller dans tel ou tel pays d'Afrique, il était plus simple de faire le synode à Rome, comme ça a été le cas la dernière fois.
De Religion du Monde et du Synode des évêques pour l'Afrique après le rappel des titres.